Bien de mon plaisir. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à la quatrième réunion sur cette question que vous avez évoquée il y a de cela quelques mois, qui est de savoir comment il peut y avoir un lien entre développement économique et patrimoine. Quatrième réunion qui se passe de manière ouverte avec de nombreux intervenants. Vous êtes à 18 communes, un gros travail de réaliser. On peut essayer de rappeler d'où on part.
Bon, on part pas de rien. Évidemment, d'ailleurs, on le constate au fil des réunions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Il y a eu beaucoup d'initiatives.
Quand je dis d'où on part, j'aimerais qu'on revienne à l'idée.
De notre idée de départ.
De cette idée de départ.
Du mois d'avril. Voilà. Bon, quel contexte? On part d'un constat que nous faisons les uns et les autres, et du constat que je fais moi dans le rôle qui est le mien, de développement économique et de tourisme, qui est que nous devons avoir des atouts différentiels. C'est-à-dire qu'il faut, en d'autres termes, que nous soyons meilleurs que les autres. On peut pas l'être dans tous les domaines, on essaie, mais on va pas y arriver, il faut être réaliste. Par contre, il y a des domaines où nous avons suffisamment de potentialité et de moyens pour y arriver. Ce domaine de la mise en valeur du patrimoine est un élément de différenciation important pour nous, en tout cas en termes de potentiel de différenciation, qui peut faire de nous un modèle différent dans la Caraïbe. Les gens vont venir et ils sauront qu'ils viennent à la Martinique parce qu'il y a un patrimoine exceptionnel et que ce patrimoine est valorisé. Et donc, on part de cette idée-là. À partir de cette idée-là, on s'aperçoit qu'il y a une grande transversalité. Ça concerne beaucoup de personnes, ça concerne des particuliers qui ont des fois un bâti ancien, qui n'est pas nécessairement un palais, qui peut être une toute petite maison, mais qui a un intérêt architectural, un intérêt historique, un intérêt esthétique évident. Ça peut être l'État, qui a aussi des bâtiments, ça peut être les collectivités. Et donc, tous ces acteurs-là, chacun les uns et les autres, sont en mesure, ou devraient être en mesure, de nous apporter une contribution. Donc on met tout le monde autour d'une table et on réfléchit et on se passe des informations, on échange des informations. C'est comme ça que nous avons commencé. Et puis après, on essaie de définir des objectifs précis en matière de réalisation. Donc, on essaie de monter des projets. Mais pour monter des projets, il faut d'abord avoir les moyens d'imaginer ce qu'il y aurait lieu de faire et l'espace du possible. Pour ça, il faut des moyens. Et très souvent, les collectivités, qui sont les acteurs, malgré tout, en priorité, que l'on peut mobiliser, et notamment les mairies, n'ont pas toujours les moyens et ont beaucoup de priorités, celle-là n'étant pas la première des priorités. Mais quand on vous dit que l'on peut avancer sans bourse déliée, ou du moins que quelqu'un est prêt à délier la bourse pour vous, c'est ce que nous avons identifié très rapidement au cours de notre première réunion, ou la deuxième, c'est que la Caisse des dépôts était en mesure de financer l'élaboration en matière d'ingénierie de projet. Et une fois qu'on a le projet, après il faut le réaliser. Pour le réaliser, il faut trouver les moyens. Mais vous ne trouverez jamais les moyens si vous ne savez pas où vous voulez aller.
Très bien. Alors, Yann, mon plaisir. Pour résumer pour nos auditeurs, ça veut dire qu'au départ, bon, vous avez eu cette idée de trouver une dynamique économique, on disait, à travers ces questions-là. Ensuite, c'est posé la question des financements et vous dites aujourd'hui qu'il y a un accélérateur qui fait que pour la mise en place de ces projets-là, il y a un organisme que vous avez nommé qui est prêt à financer l'ingénierie de tous ces projets. C'est bien cela.
C'est bien cela. Ce n'est pas le seul accélérateur. J'essayais simplement d'exprimer, mais je vous remercie de le formuler comme ça, que nous avons identifié une porte d'entrée, mais la première des portes d'entrée, c'était qu'est-ce qu'on a défini comme choix d'édifices particulièrement intéressants. Et on a donc demandé à chaque maire de nous dire dans sa commune, puisque c'est le maire qui est mieux placé pour le faire, quels sont les trois bâtiments, les trois monuments, les trois constructions, les trois sites qu'il considère comme étant suffisamment exceptionnels pour qu'il en fasse les trois priorités dans ce domaine de ce qu'il souhaiterait voir mis en valeur. Et donc chaque commune a identifié trois sites, donc on a fait un inventaire. Et la phase suivante, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces sites-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, et c'est là que je dis qu'il faut des moyens.
Très bien. Alors, vous avez pu réunir tout de même 18 maires qui se déplacent personnellement, qui chaque fois identifient des éléments de ce patrimoine. 18 communes sur 34, me semble-t-il, c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup, surtout qu'on est parti au début de 3 communes et que ça va crescendo. C'est aussi un élément pour nous important, c'est un élément d'encouragement. Et ce que je disais aussi lors de ces réunions, c'est qu'il est évident que quand nous aurons une démarche collective suffisamment large, nous allons pouvoir plus facilement mobiliser d'autres énergies. L'État sera plus sensible à une démarche qui sera portée par beaucoup de communes, je l'espère par toutes les communes, parce que ça s'inscrira dans une volonté partagée. Et les représentants de l'État ici auront plus de poids pour dire à l'échelon national là il y a un vrai projet, là il y a une vraie volonté, il faut l'accompagner. Donc on voit bien qu'en travaillant ensemble, nous allons être plus efficaces et en le faisant de manière généreuse. Et c'est pour ça que je suis très heureux que le secteur privé s'implique, parce que la motivation qui est la nôtre et qui doit être la nôtre, c'est la motivation de l'intérêt général de notre pays et rien d'autre. Et donc, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de générosité dans la démarche des uns et des autres, que je remercie et que je félicite de leur engagement.
Expliquez-nous l'articulation avec le service privé. C'est vrai que nous avons vu quelques institutions, nous avons vu le groupe GBH qui, dès le départ, était présent. Nous voyons régulièrement... nous avons vu cet après-midi un nouvel arrivant qui était la Poste. Vous avez le port, vous avez Contact Entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les principaux acteurs économiques, la CDC, qui interviennent et qui sont justement aussi dans cette dynamique en considérant qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Expliquez à la population justement. Vous qui êtes aussi du privé, puisqu'enfin, qui étiez ou qui êtes, cette articulation.
Le secteur privé, d'abord, ce ne sont jamais que des gens, comme tous les citoyens. Et comme tous les citoyens, ils voient les choses. Et comme tous les citoyens, ils se disent qu'il faudrait s'engager. Et quelques-uns s'engagent, pas tous, comme dans la vie de tous les jours. Je les félicite d'autant plus qu'effectivement, j'aurais souhaité qu'ils soient plus nombreux encore. Bon, certains décident de s'engager. Leurs motivations, je pense qu'elles sont tout simplement les motivations qui portent sur certaines valeurs, le sens de l'intérêt général, le sentiment et l'envie de faire, le sentiment et l'envie qu'il faut donner l'exemple pour que chacun apporte sa contribution. Et on se dit qu'en posant la première pierre, on va inciter quelqu'un à en poser une autre, et ainsi de suite, et que nous allons co-construire. Et donc le secteur privé a un gros avantage, c'est qu'il est très rapide dans son processus de décision.
Réactif.
Il est très réactif, vous l'avez dit. Alors il y a un inconvénient, c'est que ses moyens sont plus limités en général. C'est pour ça que quelquefois c'est le petit complément ou la petite avance qui permet de mettre en œuvre un grand projet. Donc, il est indispensable que le secteur privé soit impliqué, comme il est indispensable que les citoyens, autres que ceux qui sont dans le secteur privé, soient impliqués. C'est pour ça que nous associons aussi l'éducation. Et j'ai eu Monsieur le Recteur, et sur une idée de Madame Elisabeth Landy, nous allons lancer une démarche qui est d'ailleurs une démarche nationale d'adoption par une école, par une classe, d'un monument de la commune, ce qui va permettre tout simplement d'impliquer les enfants dans l'histoire de ce monument, dans son importance, dans son intérêt. Et cette implication des enfants et des enseignants qui vont inciter les enfants à cette implication va nous permettre de sensibiliser plus de monde et de sensibiliser, parce que c'est indispensable, chaque citoyen doit être conscient qu'il a une mission pour la préservation et la valorisation de son patrimoine.
Très bien. Yann Monplaisir, des questions maintenant politiques. Vous êtes d'accord ou pas? Toujours autour de cette affaire.
Tout est politique. Tout est politique. Nous ne parlons que politique. Politique, c'est la gestion de la ville. Et donc, nous sommes en politique, mais en politique de construction. Alors, je sais aussi qu'il y a la politique de l'actualité et la politique, je dirais, de la tactique
des uns et des autres,
ça intéresse aussi vos auditeurs.
Oui, allons-y pour votre tactique, à vous. Je note que pour l'instant, même si vous avez chaque fois des intervenants de la CTM, qu'il y a un certain nombre de personnes que je ne vois pas à ces réunions et que j'aimerais voir, parce que bon, notamment sur la question culturelle, je pense par exemple à Mme Léontin, qu'on n'a pas encore vue, je suppose que vous gardez le président pour l'emballage final. Est-ce que par rapport à tous ces éléments-là, ce ne sont pas des gens qui devraient être interpellés par cette problématique que vous êtes en train de poser?
Tout le monde est interpellé, tout le monde est concerné, impliqué et intéressé. Le président est déjà venu à une réunion. J'ai eu Mme Léotin encore il y a 15 jours. Mme Emmanuel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle avait un conseil d'administration. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il n'y a aucun élément particulier à tirer aux conclusions. Simplement, l'angle sous lequel j'aborde le sujet, c'est l'angle économique. Et donc, évidemment, je ne peux pas le faire sans concertation et sans accord, entre guillemets, de mes collègues qui s'occupent plus particulièrement de certains aspects culturels, esthétiques, etc. Il n'y a pas de contradiction dans la démarche. Moi, je souhaite simplement donner des clés pour qu'on mette en œuvre, donner des clés pour qu'on trouve les moyens de mettre en œuvre. Donc mon approche est très économique. Je n'ai pas le savoir, je ne suis pas aussi érudit que d'autres peuvent l'être, qui sont plus spécialisés que moi. Vous pensez bien que je n'oserais pas comparer ma connaissance historique avec celle de Mme Léotin. Bon, elle est plus experte que moi et j'ai besoin de son expertise. Mais je ne suis pas dans le stade de la réalisation. Je suis dans le stade de la mise en dynamique, de la conception d'un projet et de l'utilisation de l'existant comme outil de développement économique. Et ça, je suis dans mon job.
Très bien. Alors, est-ce qu'il n'est pas l'heure aussi, puisque bon, je crois qu'on est à la cinquième réunion, me semble-t-il, est-ce qu'il n'est pas l'heure de faire un exemple?
C'est ce que nous essayons de faire. Nous avons identifié plusieurs sujets, plusieurs projets. Il y a un sujet qui me semble... Alors, je sais que le président a pris à bras-le-corps le dossier de la villa, dite Villa des Tourelles, où a habité Félix Eboué, et que le président a donné des instructions. J'en ai eu confirmation aujourd'hui pour qu'une approche de réflexion, parce que, bon, et avant de prendre une décision, il faut qu'il soit informé, et pour qu'il sache de quoi on parle, etc. Mais je sais que le président de la CTM est dans cette dynamique-là. Et donc, moi, je trouve que tout ça est positif. Et que c'est du concret. Ce qui est concret aussi, c'est ce que nous faisons avec le Grand Port. La liaison port-ville, et cette liaison port-ville qui commence sur le port et qui se termine au Fort Saint-Louis, ou qui a une étape au Fort Saint-Louis.
D'où la venue de la Poste aujourd'hui.
D'où la venue de la Poste. Et tout ça s'inscrit dans une démarche patrimoniale. Le port est un élément patrimonial. Le bassin de Radoube, qui a été érigé sous Napoléon III, essentiellement en pensant à la guerre du Mexique, etc., etc., est un élément aussi historique de la Martinique. Le Fort Saint-Louis, qui remonte, lui, à Louis XIV, avec la politique d'extension coloniale de la France, construit en même temps que la Corderie royale. Donc, d'un côté... On mettait en place des infrastructures militaires et pour l'extension coloniale de la France à la Corderie royale, à Rochefort. Et puis de l'autre côté, on avait dans ce qui était à l'époque les colonies, également la fortification. Et les deux s'inscrivent dans un mouvement simultané, avec le même architecte, etc. Ce sont des moments d'histoire qui sont importants, et c'est ce parcours-là que nous voulons, je dirais, mettre en exergue, valoriser, pour que les touristes, quand ils débarquent du bateau, eh bien, on leur raconte un peu de notre histoire, de notre passé, sans oublier les phases douloureuses de ce passé, parce que l'histoire n'est pas que qu'à l'eau de rose, mais sans non plus se focaliser exclusivement sur certaines pages de notre passé qui
est partie difficile, douloureuse, disons.
Oui, qu'il ne faut pas oublier, mais notre histoire ne se limite pas à cela. Moi, c'est ce que je veux dire. Et par exemple, j'aimerais qu'on remette la tête de Joséphine. Je lance un appel d'ailleurs, que celui qui a pris la tête de Joséphine la ramène. Hein, et qu'on remette la tête de Joséphine. Avec tous ses défauts, avec ses faiblesses, avec son humanité bonne et moins bonne. Mais qui est une page d'histoire de la Martinique. Et les Martiniquais ne peuvent pas ne pas regarder cette page d'histoire-là. Et d'autant que des historiens comme Édouard de Lépine, qui ne peut pas être taxé de parti pris colonialiste, ont indiqué que le procès qu'on a fait à Joséphine ne se justifie pas. Donc il faut arrêter ce genre d'éducubration, il faut arrêter ces agitations, il faut arrêter toutes ces... Moi, j'ai écouté une émission de Berne, de Stéphane Berne, l'autre jour, qui racontait la vie de cette femme qui a failli se voir couper la tête, qui était d'une frivolité qu'on a soulignée, et puis qui ensuite, au moment de la Révolution, a vu couper la tête de son mari, qui a été elle-même condamnée, qui a été sauvée par les événements qui ont fait que, juste à ce moment-là, Robespierre est lui-même tombé, etc. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire commune que nous avons avec la métropole, l'histoire que nous avons coécrit. L'histoire de la France qui s'est écrite ici aussi, nous avons en partie écrit l'histoire de ce grand pays qu'est la France. Alors nous avons écrit des pages noires, mais nous avons écrit aussi de belles pages de l'histoire. Et tout ça mérite d'être au moins raconté, sans rien oublier. Mais la résilience, c'est ne pas oublier, mais dépasser.
Très bien. Dernière question, Yann Monplaisir, nous en avons terminé. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'apport économique dans toute cette démarche que vous êtes en train de faire, c'est que mettre en évidence ces éléments, c'est aussi apporter du travail. C'est-à-dire que c'est faire du travail pour des designers, faire du travail pour des bureaux d'études, faire du travail pour des maçons et compagnie.
Exactement. Et puis recréer, s'il le faut, ou réinstruire, réapprendre des métiers qui sont aujourd'hui quelquefois oubliés. C'est effectivement, vous avez raison, il y a cet aspect-là, immédiat, de création d'emplois, mais au-delà de cela, moi je pense qu'il faut une stratégie, il faut un objectif. Notre objectif, c'est de renforcer le caractère touristique de la Martinique, de cette destination, par rapport à nos voisins. Nous avons pris du retard, il faut bien le constater, on n'a qu'à voir comment les autres, les taux de croissance qu'ils ont en matière touristique et le nôtre, hein. Le tourisme a tiré la croissance de toute la Caraïbe, un peu moins chez nous. Eh bien, il faut qu'on rattrape ça. Et pour qu'on rattrape ça, il faut, à partir de cet objectif-là, se dire quels sont les moyens pour y arriver. C'est un des moyens que j'ai identifié. C'est pour cela que je souhaiterais que nous... Et en même temps, on atteint un autre objectif, qui est de préserver pour nos enfants ce qui est, qui sont des éléments de mémoire, des éléments d'histoire, et qui nous permet de mieux comprendre tout ce qui s'est passé dans ce pays et comment nous sommes devenus ce que nous sommes.
Très bien, merci Yann, mon plaisir.
Merci de m'avoir interviewé, merci de m'aider à faire partager cette ambition et cette volonté que j'ai de voir mon pays aller de l'avant en utilisant les vrais atouts dont il dispose. Il faut rêver, mais avec, bien sûr, la tête dans les nuages, comme me dit très souvent une de mes amies, mais avec les pieds sur terre, et il ne faut pas faire planer les gens au-dessus des réalités sans jamais se poser sur le sol.
Merci, Yann, mon plaisir.